Voilà, on est sur le thème donc de l'origine de l'univers. L'origine de l'univers, alors on va voir deux aspects dans ce sujet. Tout d'abord, l'aspect, on va dire, biblique, hein, on va regarder dans la Bible, bien sûr, puis on va comparer avec ce que dit la science. Et puis, après, si vous avez des questions, alors bien sûr, c'est un partage. Je souhaite que vous puissiez aussi poser des questions, si vous le souhaitez, si vous avez des questions et si on peut y répondre. Alors, peut-être on va passer le diaporama, voilà la création. Ce qu'on peut dire avant de lire le texte, c'est que de tout temps, l'homme s'est posé des questions sur ses origines. Comment, pourquoi est-ce que nous existons, qu'est-ce que nous faisons là? Il y a beaucoup de questions qui sont des recherches dans l'image suivante. Vous avez une présentation des différentes... tu peux avancer encore? Encore une fois. Voilà, l'origine de l'univers. Donc, vous avez ici les religions qui posent la question des origines. Savoir comment et pourquoi l'homme est sur la Terre. Donc, la religion tente à donner une réponse. Et cherche, c'est pourquoi il existe plus de 10 000 religions dans le monde qui sont des recherches du sens de la vie. Bien sûr, vous avez la philosophie qui, avec des principes moraux, essaye de donner un sens à l'existence. Et de nombreux philosophes se sont succédés à travers l'histoire pour essayer de comprendre pourquoi l'homme est sur la Terre et quel est le sens et le but de sa vie. Donc ce n'est pas une approche religieuse, mais c'est une réflexion philosophique. Et puis vous avez la science. Troisième grand secteur de recherche qui est très développé, la science qui nous permet d'expliquer l'origine de la vie, qui cherche en tout cas à expliquer, bien sûr, vous connaissez tous la théorie de l'évolution, l'homme serait le processus d'une longue évolution qui serait partie d'une cellule. Alors on va en parler tout à l'heure, mais tout ça c'est lié pour eux au hasard. Alors j'aimerais qu'on compare tout simplement l'enseignement de la Bible avec ce que dit la science, et voir les points de convergence ou les divergences. En ce qui concerne l'origine de l'univers, on peut dire qu'il y a deux théories qui s'affrontent. La première, c'est le créationnisme. Alors, c'est ce que nous allons lire dans le livre de la Genèse dans un instant. Nous, chrétiens, nous sommes créationnistes, c'est-à-dire que nous croyons que Dieu a créé toute chose d'après sa parole. Et puis, il y a une autre thèse qui s'appelle l'évolutionniste, soit athée, c'est-à-dire que la vie, c'est le produit d'un hasard aveugle, c'est un grand coup de chance, si vous voulez, si nous sommes là aujourd'hui, ou soit théiste, c'est-à-dire que Dieu aurait prévu et conduit l'évolution pour aboutir à l'homme. C'est un peu un mixte des deux. Alors, intéressons-nous à la première, l'image suivante, le créationnisme. Depuis tous les premiers temps de l'Église, les chrétiens ont affirmé unanimement la foi dans la doctrine de la création. Je vous ai mentionné ici, reviens un petit peu en arrière, je vous ai mis ici le symbole de Nicée, qui est une déclaration des pères de l'Église, des premiers chrétiens. On est en 325 après Jésus-Christ. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et toutes choses visibles et invisibles. Alors je vous invite à ouvrir la Bible. On va lire donc dans le livre de la Genèse. Je vais avoir besoin de trois lecteurs qui vont m'aider à lire dans la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a trois personnes qui seraient volontaires pour lire dans la Bible? Marlène, voilà. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Oui, Laurence. Et une troisième? Oui, tu veux bien? Bon, super. Elsa. Alors, il nous faut le micro. Alors, qui va commencer à lire? Tu veux commencer, Elsa? Genèse, chapitre 1, verset 1. C'est facile à trouver. Alors, on lit Genèse, chapitre 1. Allez, on va lire une partie. On va lire les trois premiers jours de la création. Genèse, chapitre 1, verset 1. Jusqu'au verset 13.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour.
Voilà, donc merci, jusque-là on a vu, on va voir ce sont des séquences par jour. Alors on va lire ce chapitre 1, qui montre les six jours de séquence de création. On repère le premier jour, la lumière, les ténèbres. Donc on continue, le jour 2, continue au verset 6.
Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour.
Très bien. Troisième jour maintenant, verset 9.
Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour.
Merci. Alors on va changer de lecteur, si tu peux faire passer le micro à Laurence. Donc ici on a vu les trois premiers jours de la création dans la Genèse. Trois premiers jours qui nous montrent des espaces qui sont créés. Il n'y a pas encore de contenu. C'est pour ça que je mentionne, pour amener à votre réflexion, que ces groupes des six jours, on peut le diviser en deux groupes de trois. Un premier groupe de trois que nous avons lu, qui sont la création de soit de lumière, ténèbres, ou d'étendue, l'eau, la terre. Enfin, ce sont des espaces, il n'y a pas encore d'animaux vivants. Donc les trois premiers jours, on va dire, ce sont des espaces. Les trois jours suivants, ça va être maintenant ce qui va remplir ces espaces. Donc on arrive au quatrième jour, on a vu les trois premiers. Le quatrième, c'est au verset 14. Donc il va remplir un espace qui a déjà été créé. Donc on va lire du verset 14, à partir du verset 14.
Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour.
Merci. Donc vous voyez ici, quand il est dit le grand luminaire et le petit luminaire, ça fait référence au soleil et à la lune. Donc, et les étoiles sont mentionnées. On comprend maintenant que ces grands espaces, qui sont les ténèbres et la lumière, vont être remplis d'éléments que sont le soleil, la lune et les étoiles. Ça, c'est le quatrième jour. Cinquième jour, verset 20.
Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour.
Merci. À nouveau, même cas de figure, on avait parlé de la mer tout à l'heure au deuxième jour, mais la mer était vide. Et là, on a maintenant ce qui va être ce qui va être dans la mer, c'est-à-dire les poissons, tout ce qui se meut dans la mer va remplir cet espace qui était vide de la mer. Donc, on arrive au sixième maintenant.
Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
On arrive donc au sixième jour, mais il n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il va y avoir la création aussi de l'homme et de la femme. Et déjà, on avait parlé de la terre au troisième jour. La terre était vide, maintenant il y a les animaux qui sont sur la terre. Tu peux continuer au verset 26, puisque l'homme va se rajouter, l'être humain.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Voilà, donc on termine le sixième jour avec la création de l'homme qui est d'ailleurs appelé à dominer sur tout ce qui a été créé avant lui. On va terminer la dernière petite partie, donc tu peux lire du chapitre 2, verset 1 à 3, ça termine ce cycle avec le septième jour.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.
Merci. Voilà, donc on a terminé cette lecture qui fait partie du texte fondateur de la création. Il y aura un deuxième récit qu'on lira un peu plus tard, qui est un peu plus détaillé sur la création de l'homme en particulier. Là, c'est vraiment la création en général. Mais on va partir sur cette base, avec le septième jour qui est un petit peu à part, puisque c'est le jour du repos de Dieu, le jour où il n'y a pas eu de création spécifique. Ça s'arrête au sixième jour, donc, la création. Alors, on va donc parler tout d'abord du créationnisme. Qu'est-ce que dit le créationnisme? Alors, l'image suivante. Le créationnisme affirme ces trois choses. La première, c'est que Dieu a créé l'univers à partir de rien. En fait, ce que nous partageons, c'est basé sur la parole de Dieu, sur ce que nous venons de lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. C'est ce que les théologiens appellent une création ex nihilo, création à partir de rien. La Bible donc affirme, au commencement, Dieu créa. Alors, c'est le verbe bara en hébreu, hein, B-A-R-A, qui signifie création absolue. C'est-à-dire que ce verbe que nous, on utilise, créer. Souvent, on dit, on parle de créateurs, ce sont des gens qui inventent des choses, qui sont capables de concevoir. Mais on a toujours besoin de matière première, nous. Tandis que le verbe bara est spécial. Le verbe bara est utilisé uniquement pour Dieu, dans la Bible, et ça montre qu'il est le créateur de choses qui ne sont pas et qui l'amènent à l'existence. Vous voyez, derrière ce verbe créer, que nous, on utilise d'une manière un petit peu générale en français, en tout cas en hébreu, il y a un verbe spécifique qui est attribué à Dieu et qui signifie que Dieu amène les choses à l'existence à partir de, nécessairement à partir de rien. Toujours ce verbe est utilisé en relation avec Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'on peut affirmer? Première chose, c'est que rien n'existait avant la création et que Dieu a amené toutes choses à l'existence. Alors, on va passer le micro à Marlène, parce que le troisième lecteur. Pour les textes suivants, on va lire trois textes. D'abord, psaume 33, verset 9. Psaume 33 et le verset 9, pour vous montrer cela. Là, dès que tu l'as, tu le lis.
Car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe.
Alors là, il est question de Dieu, n'est-ce pas? Car il dit, sa parole est puissante pour amener à l'existence des choses qui ne sont pas. Il ordonne et elle existe. Elle n'existait pas avant, donc sa parole est puissante pour donner vie aux choses. On va lire Romains chapitre 4, verset 17. Dès que tu l'as, tu le lis.
Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Bien, ce texte fait référence donc à Abraham, qui a été établi par Dieu père d'un grand nombre de nations. Là aussi, il y a eu un miracle, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis, la suite dit, il appelle, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il y a donc chez Dieu cette faculté de pouvoir appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Et le troisième texte, c'est dans Hébreux chapitre 11 et au verset 3. Hébreux 11, 3.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Là encore, il y a une dimension importante, c'est la foi. Déjà, si nous sommes croyants, nous croyons par la foi que Dieu a créé l'univers. Mais il y a un élément important à la fin de ce verset. Ce que nous voyons, la création visible, provient de l'invisible, de choses que nous ne voyons pas auparavant. Et c'est quelque chose qui a surgi du néant et qui a abouti à la création. Voilà ce qu'affirme donc le créationnisme. Premier point, c'est que Dieu a créé l'univers à partir de rien. Deuxième chose qu'affirme le créationnisme, l'univers n'a pas toujours existé. La matière n'est pas éternelle, parce qu'il y avait cette pensée chez les Grecs, par exemple Aristote, le matérialisme, qui croyait que l'univers était éternel. C'était d'ailleurs vrai jusqu'à une époque récente, puisque du temps d'Albert Einstein encore, la plupart des scientifiques croyaient que l'univers était éternel, jusqu'à la découverte du Big Bang, ce qu'on a appelé le Big Bang, cette théorie du Big Bang qui nécessite un point de départ. Mais pendant bien des siècles, en tout cas, philosophes et scientifiques ont cru que l'univers existait depuis toujours. Or, qu'est-ce que dit la Bible ? L'univers a un commencement et il aura aussi une fin. Alors, on va lire dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10, encore un verset. Ceci pour vous le prouver. 2 Pierre 3, 10.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour-là. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
Qu'est-ce que dit ce texte ? Il est en train de nous expliquer que cet univers dans lequel nous sommes, il finira par disparaître. Ici, il est question de feu. Les éléments embrasés se dissoudront, la terre sera consumée. Et si on va un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, on voit que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, les cieux et la terre d'à présent, c'est un passage, c'est pour un moment particulier, mais Dieu fait ce qu'il veut de sa création. Il y a eu un commencement, il y aura une fin, et il y aura même une nouvelle création. Les choses anciennes vont disparaître, et Dieu va créer toutes choses nouvelles. Autre chose par rapport à la matière, dans le texte que nous avons lu, Genèse chapitre 1, tout ce que Dieu avait fait était bon. Donc la matière n'est pas mauvaise en soi, mais c'est ce que nous faisons souvent à cause du péché qui a rendu les choses mauvaises. Donc Dieu a déclaré bon et même très bon. On l'a lu tout à l'heure, c'était au verset 31 du chapitre 1. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc on a vu les deux premiers points. Dieu a créé l'univers à partir de rien. L'univers n'a pas toujours existé. Troisième point, l'univers dépend entièrement de Dieu pour sa subsistance. On va à nouveau lire trois versets. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 17, pour vous montrer cela. Certains pensent que Dieu a initié la création et puis il la laisse évoluer par elle-même. Or, dans la Bible, nous voyons que Dieu est à l'œuvre pour le maintien de sa création. Plusieurs versets le montrent.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
Là, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est avant toute chose. Toute chose subsiste, c'est-à-dire qu'elles tiennent. Toute chose, toute création, tout ce qui existe, en fait, elles sont maintenues par Christ. On va lire Job 34, versets 14 et 15.
S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière.
Ok, donc s'il retirait son esprit, s'il retirait son souffle, Dieu, imaginez qu'il retire son souffle un instant, eh bien toute chair périrait. Cela montre que Dieu maintient en vie, déjà nous, il nous maintient en vie, mais aussi tous les animaux, la création, sont maintenus en vie par Dieu. Et un dernier texte, c'est Psaume 36 et au verset 7.
Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge.
Psaume 36, 7.
7. C'est ça ?
Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge.
Ah mince, c'est pas celui-là. C'est « Tu soutiens les hommes et les bêtes » que je pensais, mais je ne sais pas si c'est dans ce psaume alors. Psaume ? Et c'est, ah, on n'a pas les mêmes références ?
36, 7, c'est le...
Ah oui. Et toi, c'est le 8 ?
Et le 8, c'est le 8, il sera saisi de l'abondance. De
non, ce n'est pas ça non plus.
Si, c'est le 2. Dans le même verset, il y a 2.
C'est bien, alors, c'est bon la référence ?
Et le 6, la justice est comme les montagnes de Dieu, que
tu manges comme éternel, tu soutiens les hommes.
Voilà, c'est celui-là. Éternel, tu soutiens les hommes. Et les bêtes. Merci. Oui, c'est ça. C'est la fin du verset 7. Éternel, tu soutiens les hommes, tu soutiens les hommes et les bêtes. Donc il soutient. Actuellement, il soutient les hommes et les bêtes. Voilà. Déjà, voilà les trois affirmations concernant le créationnisme. Déjà, est-ce que jusque-là, vous avez une question ou ça va ? On aura des petites pauses aussi pour poser des questions. Mais si vous avez une question qui vous vient, n'hésitez pas à la noter quelque part pour pouvoir la poser au moment voulu. En tout cas, déjà, est-ce que jusque-là, ça va, ce qu'on a partagé, ou est-ce que vous avez une question sur ce qu'on a... Oui ? Est-ce que vous pouvez parler dans le micro pour que ça soit enregistré ?
Oui, moi, c'était pour la lumière, là. Parce que la lumière, elle apparaît au quatrième jour avec le soleil.
Alors, la lumière... Oui, effectivement, mais la lumière a existé avant le soleil. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que, on va en parler plus spécifiquement cet après-midi en parlant du récit de la Genèse par rapport à la science et par rapport, en fait, au tableau que représente la lumière par rapport au luminaire. Mais effectivement, la lumière précède les astres. C'est aussi ce que croient les scientifiques. Il y a eu une lumière qui a échappé à l'origine de... Bon, si on parle de la théorie du Big Bang, donc c'était, tout était concentré dans petit endroit. Et ça s'est développé et a commencé à apparaître la lumière avant même que les astres se mettent en place. Donc ça, c'est pas incompatible, on va dire. Voilà. La puissance de Dieu, de toute manière, n'est pas limitée par le soleil pour avoir de la lumière, si vous voulez. Mais on va en parler plus spécifiquement avec le schéma que je vais vous montrer cet après-midi de cette question. C'est vrai, qui peut interpeller. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, on va continuer. Le point suivant, est-ce qu'il y a un diaporama suivant ? Alors on va se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers ? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers ? On sait que Dieu existe depuis toujours. Il est éternel. Mais est-ce qu'il avait besoin de créer l'univers ? Bon, lui, on sait que Dieu, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il est autosuffisant à lui-même. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers ? Alors, on va lire dans Actes 17. Alors, est-ce que tu peux repasser le micro à Elsa ? On va changer de lecteur. Actes 17, verset 24. Qui est-ce qui a le micro, là ? Ah oui, pardon. Est-ce qu'on peut le passer à Elsa ? Voilà. Actes 17, versets 24 et 25.
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit.
Voilà. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, mais en réalité, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est Dieu éternel. Et il ne cherche pas, si vous voulez, en Dieu, il y a déjà une relation qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ce n'est même pas par nécessité qu'il a créé le monde pour entrer en relation avec nous. C'est plutôt par amour ou par sa volonté. Mais en tout cas, ce n'est pas par nécessité, puisque Dieu ne manque de rien. Il ne cherche pas non plus davantage de gloire. Il n'a pas besoin de compagnie spécifique. Voilà, Dieu est autosuffisant. Il existe depuis toujours. Alors, il y a un verset qui nous aide, c'est Apocalypse, chapitre 4, verset 11. On va le lire. Et là, on va voir pourquoi Dieu a créé l'univers.
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Alors ici, c'est écrit que c'est par ta volonté, c'est par la volonté de Dieu que tout ce que Dieu a fait a été créé. C'est à cause de ta volonté. Donc la création demeure un mystère, mais on sait que c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si nous sommes là, c'est la volonté de Dieu que nous existions. C'est un acte d'amour purement gratuit. Dieu aurait très bien pu ne rien créer, il n'aurait pas été moins glorieux. Alors j'ai mis une image pour vous présenter ceci, c'est Martin Luther. Si vous le connaissez, c'est un des réformateurs qui a écrit sur la création. Il dit ceci, « Pourquoi donc le monde ? Tout est pleinement en lui, le Dieu vivant. Comment peut-il y avoir quelque chose à côté de lui ? Quelque chose dont il n'a pas besoin. Telle est l'énigme de la création. Voici la réponse à la doctrine de la création. Dieu, qui n'a nul besoin de nous, a créé le ciel et la terre, m'a créé moi, sans que j'en sois digne, par pure bonté et miséricorde paternelle, je dois, pour tous ses bienfaits, le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement. » J'ai pris cette citation pour montrer que, voilà, il réalise que Dieu l'a fait par pure bonté, par pure grâce. Et qu'est-ce que ça génère chez nous ? Eh bien, il dit, ça me pousse à rendre gloire à Dieu pour sa fidélité, pour son amour et pour sa bonté. Alors, dans ce point, Dieu, on voit qu'il a créé toutes choses. Pourquoi ? Bien, pourquoi a-t-il créé l'univers ? C'est sa volonté. Il l'a fait parce qu'il l'a bien voulu. Il a créé toutes choses pour sa gloire. C'est écrit, par exemple, au psaume 19, verset 2, si tu peux le lire. Psaume 19, 2. C'est un verset très intéressant qui montre que la création nous parle de Dieu.
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
Alors que dit ce texte ? Les cieux, c'est-à-dire la nature, ce qui nous environne quand on regarde vers les étoiles, vers l'univers. Eh bien, ça nous raconte la gloire de Dieu. Dieu a laissé des empreintes de sa gloire dans la création. Et nous, nous les voyons. Quand nous regardons les étoiles, les planètes, l'univers, l'agencement, c'est magnifique comme Dieu a créé les choses. Pareil, au psaume, on peut lire un extrait du psaume 8, par exemple. Tu peux lire le psaume 8, il est assez court. Regardez David, comme il s'émerveille devant la création de Dieu. Psaume 8.
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, et les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Alors, on est dans la même attitude que Martin Luther tout à l'heure. On voit David qui observe la création magnifique et il loue Dieu pour cette création. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand on voit l'homme, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? La lune, les étoiles, tout ce que tu as disposé dans l'univers, eh bien, ça le pousse à adorer. La création aussi est invitée à louer Dieu. Ce sont des images pour nous montrer que les astres aussi louent. Alors, on va lire dans le psaume 148, les versets 1, à partir du verset 1 à 5, pour vous montrer combien cette création est invitée à adorer, à louer l'Éternel. Psaume 148, versets 1 à 5.
Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux.
Très bien. Alors, voyez, ce sont des extraits de la Bible pour vous montrer que même la création, en fait, c'est une création de Dieu, mais elle est invitée à louer Dieu. Alors, bien sûr qu'il n'exprime pas la louange comme nous. D'ailleurs, nous le faisons facilement, librement, mais c'est une image pour montrer que ce sont des créations de Dieu et qu'eux aussi, elles rendent gloire à Dieu à leur manière par leur éclat. Quand le soleil brille, eh bien, ça permet d'exalter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, on voit Dieu partout dans la création, si on regarde bien. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Alors on va passer le micro à Laurence, si tu veux bien le récupérer. On va voir, mais de quoi nous parle l'univers? Il nous parle de quoi? Il nous parle, en fait, des choses de Dieu, même des attributs de Dieu. Alors on va essayer de les trouver, les attributs de Dieu. On va lire dans Jérémie, chapitre 10, verset 12.
Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence.
Merci. Alors, est-ce que vous voyez des attributs là? Je vous fais un petit peu participer. Ce qui nous parle des attributs de Dieu. Alors, dites-le bien fort si vous en avez trouvé un. La puissance. Alors, tu peux l'afficher? C'est l'image suivante. Vous l'avez bien vu, bravo. Alors, quand vous regardez la création, ça nous parle de la puissance de Dieu. C'est un attribut de Dieu. On continue? Vous en avez vu un autre? La sagesse. Ah ouais, il y est mentionné, c'est vrai. Alors, quand vous regardez comme c'est conçu, l'harmonie, l'ordre, ça nous parle de la sagesse de Dieu. Un autre? Son intelligence. Ouais. Quelqu'un dit la force? Il y est marqué dans la... Je ne l'avais pas vu celui-là. Ah oui, mais, ah oui, parce que toi, tu le supposes. Il est dans le texte ou pas, la force? Ah, voilà, c'est ça. Oui, on peut dire que ça parle aussi de la force. Mais si on se base juste sur le texte, il est mentionné l'intelligence. Donc, on en a déjà trouvé trois, n'est-ce pas? La puissance, la sagesse, l'intelligence. En fait, la création nous parle déjà de cela. Alors, on va lire un deuxième verset pour vous montrer qu'il y en a d'autres. Romains, chapitre 1, verset 20.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
Alors, on parle bien de la création du monde. Est-ce que vous voyez des attributs qui sont mentionnés ici? La puissance, avant il y a la perfection, la perfection de Dieu. peut l'afficher. Ensuite, vous avez dit la puissance et puis sa divinité. Alors, tout cela nous parle, en fait, du Créateur. S'il y a une création, s'il y a un mécanisme qui est si admirablement conçu, c'est qu'il y a un Créateur qui a initié toutes ces choses. L'Éternel, il est dit qu'il s'est créé un peuple pour sa gloire et qu'il n'existe pas de hasard. Vous savez que toute la théorie scientifique du Big Bang, en fait, repose sur le hasard. C'est par hasard. On aurait très bien pu ne jamais exister. C'est un grand coup de hasard. Il faut beaucoup de hasard pour que l'univers existe comme il est et que la vie jaillisse. Alors, on va lire un verset dans Proverbes 16:4 pour vous montrer qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Au contraire, que Dieu fait tout avec un plan et dans un but. Proverbes 16, verset 4.
L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur.
L'Éternel fait tout pour un but. C'est-à-dire que quand l'Éternel a décidé de créer l'univers, c'était dans un objectif, dans une pensée précise, de nous donner la vie et de nous permettre de vivre dans cet univers. Là, c'était la première question. On va avancer un petit peu. Deuxième question, qu'est-ce que Dieu a créé ? Alors, on va lire dans Actes chapitre 4, verset 24. On va lire deux versets pour vous montrer cela. Actes 4, 24, le premier, qui affirme qu'est-ce que Dieu a créé.
Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?
Merci. Toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tout. Tout, donc, tout a été créé par Dieu. Alors, j'ai mentionné ce verset, mais dans les actes, il revient trois fois. Actes 4, 24, Actes 14, 15, Actes 17, 24 à 25. Trois fois, c'est répété, Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Actes 4, 24, Actes 14, 15 et Actes 17, 24 à 25. C'est donc une affirmation importante de la parole de Dieu que Dieu a tout créé. Mais regardons chez Paul, dans Colossiens chapitre 1 et au verset 16, il donne encore une précision qui va nous être utile. Colossiens chapitre 1, verset 16.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est qu'il existe des choses visibles et des choses invisibles. Mais qu'est-ce que sont ces choses invisibles, d'après vous ? Est-ce que vous avez une idée ? Les anges, par exemple, ce sont des créatures de Dieu qui sont invisibles. Et c'est mentionné par Paul que Dieu a créé les choses visible, ça c'est ce que nous pouvons voir avec nos yeux, mais les anges, nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux, et pourtant, ils ont été créés par Dieu aussi. Dieu a aussi créé, le temps. C'est difficile un petit peu à comprendre ces choses, parce que, en fait, le temps n'a pas toujours existé comme nous le comprenons. Le temps a été créé par Dieu, parce que Dieu est hors du temps, il est intemporel. Il ne vieillit pas, il ne connaît pas l'usure du temps. Le temps, c'est une création de Dieu, dont nous sommes en fait dans le temps et dans la création de Dieu. Nous sommes dans les deux. C'est l'espace-temps. En fait, Dieu a créé en même temps la matière, il a créé l'espace-temps pour que la matière puisse s'y déployer dans le temps. Alors, c'est impossible de parler du temps qui s'est écoulé avant la création puisque ce n'est pas un temps créé. On parle de l'incréé. Avant la création, le temps n'existe pas dans le sens où nous parlons du temps aujourd'hui. De même, quand Dieu mettra un terme à cette création, il y aura un autre temps qui sera hors de ce temps ici, qui est le temps de la création. On peut parler d'un temps infini, un temps qui échappe. Alors, au ciel, des fois, il y a des chrétiens qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? Ça va être long quand même, toute cette éternité. » Ben non. En fait, dans l'éternité, on ne voit pas le temps qui passe, puisqu'il n'y a pas de succession de temps. bien sûr, c'est une autre dimension qui nous échappe. Donc n'imaginez pas au ciel que vous aurez une montre et que vous dire, oh là là, il me reste une heure à attendre. Non, ça n'existe pas, ces choses-là, au ciel.
C'est pour cette raison qu'il dit, un jour est comme 1000 ans.
Voilà, exactement. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Ça, pour Dieu, le temps... On va en parler de la flexibilité du temps, parce que vous allez voir que ça a son rôle dans la création. Oui.
Il y aura quand même une notion de temps, parce que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y aura un fruit chaque mois.
Oui. Alors, il faut bien comprendre que l'Apocalypse est nourri de beaucoup d'images. Et c'est une manière de parler qui est très compréhensible pour nous, mais qui n'est pas forcément, scientifique. Donc, il faut bien le comprendre qu'il y a beaucoup d'images dans l'Apocalypse qui ne sont pas... si on les applique littéralement, on va heurter à quelques difficultés. Donc, il faut plutôt le prendre comme des images. Parce que Jean, en fait, a eu des visions. Alors, il transmet avec ses mots à lui les visions qu'il a eues. Mais je ne pense pas qu'on peut s'appuyer là-dessus pour dire qu'il y aura un temps qui passe de la même manière que nous. Parce que ce sera le mode éternité, c'est un mode encore différent de notre mode à nous, le temporel. Temporel. Voilà. Enfin, comme ça nous échappe, je ne peux pas trop vous détailler, je ne sais pas moi-même. La Bible ne nous donne pas toutes les révélations. Nous devons. En fait, nous le serons quand nous y serons, hein, n'est-ce pas ? Voilà, nous, on est dans la foi, on croit, mais il y a des paramètres au niveau du temps qui ne sont pas de notre ressort. Est-ce qu'il y a encore une question là-dessus ? Ça va ? C'est bon ? Alors, Dieu, on a dit, il est hors du temps. Il existait avant sa création, dans un mode intemporel qui échappe à notre entendement. On va lire le psaume 90 et le verset 2.
Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Vous voyez, ce psaume 90, verset 2, il y a vraiment une distinction entre la création qui commence avec le monde. Tu as créé le monde, les montagnes, l'univers. Mais il dit, avant cela, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, il y a quand même une éternité dans l'avant-création qui échappe au système temporel. Donc, quand on parle de création, on parle aussi de temporalité, le temps qui passe, qui n'existe pas en Dieu. Enfin, la troisième question, est-ce qu'on peut mettre la troisième question ? Comment Dieu a créé l'univers ? Le livre de la Genèse, alors, on va revenir dans Genèse, chapitre 1, verset, on l'a lu tout à l'heure, mais on va juste regarder le début, puisque ici, on a une mention très importante sur la manière dont Dieu a créé l'univers. Le livre de la Genèse souligne l'œuvre trinitaire. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Verset 1, au commencement, Dieu créa, on va dire, Dieu le Père crée par sa puissance. Mais au verset 2, vous avez la mention de l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, c'est donc le Saint-Esprit. Il est déjà présent, il est coéternel, il est Dieu. Et puis, le verset 3, Dieu dit, c'est donc la parole. Et nous savons que la parole, c'est Christ. Jean nous le révèle dans son prologue, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 et suivant. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole c'est Jésus. Et vous la trouvez au verset 3. Dieu dit, quand Dieu parle, c'est Jésus qui se met en mouvement, c'est la parole créatrice. Alors, dès les chapitres 1 de la Genèse, on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La parole de la participation de Christ comme parole, je l'ai dit dans Jean chapitre 1 verset 3, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par Christ. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été créé par lui, alors Paul le dit d'autres manières, tout subsiste en lui, Colossiens 1, 16, 1 Corinthiens 8, 6, etc. Peut-être on peut lire Hébreux chapitre 1 verset 2, qui est un peu différent, mais qui va toujours dans le même sens pour vous montrer que le Fils, Jésus-Christ, ou la parole, alors on l'appelle Christ, la parole, le Fils, Hébreux chapitre 1 verset 2, il est à l'origine de la création.
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers.
Par lui, c'est-à-dire par le Fils ou la parole ou Jésus, il a créé l'univers. C'est ce fameux verset 3 dans la Genèse. Dieu dit que la lumière soit. C'est par Christ, en fait. C'est pour ça que déjà, il y a des indices de la Trinité, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, dont on a un exemple dans le livre de la Genèse. Très bien. Je peux vous mentionner encore un verset pour le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lire le psaume 104 et le verset 30 ?
Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre.
Voilà. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Qui est-ce qui est créé ? Est-ce que c'est les animaux ? Je ne sais plus dans le contexte. Il me semble que c'est ça. En tout cas, tu envoies ton esprit, ils sont créés. Donc l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la création. Bien, on va passer à la question suivante, qui est peut-être la plus difficile. Quand Dieu a-t-il créé l'univers ? La date ? Est-ce qu'on peut estimer une date de la création ? Ça, c'est une question délicate. L'âge de l'univers a beaucoup intéressé les hommes depuis les temps reculés. Alors, on va regarder un petit peu l'image suivante pour vous montrer les différentes hypothèses qui ont eu lieu. Voilà. La Torah, d'abord, les rabbins. Les rabbins, eux, ont estimé, alors ils ont calculé d'après le calendrier hébraïque, ils ont établi la date du commencement en 3761 avant Jésus-Christ. Ensuite, d'autres calculs ont été faits. Ce qu'on appelle les tables d'Alphonsine. On est au XVIIIe siècle et ils ont fait un calcul pour estimer la date du commencement et ils l'ont situé à 6094 avant Jésus-Christ. Et puis l'astronome allemand Kepler l'a fixé en 3992 avant notre ère. Mais le calcul le plus célèbre, c'est certainement celui de l'anglican James Husser dans l'image suivante. Lui, c'est le plus précis. Voilà, il a estimé, il a même fixé le jour, samedi 23 octobre, 4004 avant Jésus-Christ, à 18h. Alors, on ne peut pas faire plus précis. Hein. C'est assez audacieux quand même. Lui, il a cherché une à partir des généalogies qui sont mentionnées, il a calculé comme ça à rebours, et il a estimé cette date jusqu'au jour précis. Bon, c'est... je dirais que c'est assez audacieux, même si ces calculs ont fait assez autorité avant l'avènement de la science, parce que là, on est avant les découvertes scientifiques qui sont récentes dans l'histoire, qui ont montré qu'en fait, l'âge de la Terre était beaucoup plus reculé que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, aucun théologien ne soutient une date aussi récente pour parler de la création. Dans les milieux chrétiens. Mais néanmoins, ils ont essayé de calculer l'origine du monde en calculant les dates des généalogies. Mais est-ce que c'est possible de calculer l'origine de l'univers avec les dates des généalogies ? Car les généalogies ont des sauts de génération. C'est-à-dire que vous pouvez passer du père à l'arrière-petit-fils. Ce n'est pas toujours linéaire. Donc, on ne peut pas réellement établir un chiffre précis à partir des généalogies. J'ai plusieurs exemples. Par exemple, Matthieu, dans sa généalogie, il omet trois rois, Joas, Amatsia, Azaria, dans Matthieu chapitre 1, verset 8, alors que vous les retrouvez dans l'Ancien Testament. Il va sauter directement, alors il dit « fils d'eux ». Mais en réalité, entre deux, si on n'avait pas l'Ancien Testament, il y a eu trois générations quand même entre les deux. Donc les généalogies ne sont pas précises au point de pouvoir fixer une date. Je vous donne un autre exemple. Joseph, qui était l'époux de Marie, Marie qui a donné naissance à Jésus. Joseph, il est dit dans Matthieu 1,20 que Joseph, c'était le fils de David. Or, on sait que ce n'était pas le fils de David, on sait que c'était un descendant de David, mais vous ne pouvez pas calculer le nombre d'années qu'il y a entre Joseph et David, mais il y a forcément un nombre d'années important. Alors cette question continue à susciter des débats, surtout avec l'arrivée de la science, puisque selon la science, on va regarder l'image suivante, la science propose 4,5 milliards d'années, donc par rapport à la Terre. On ne parle pas de l'univers, on parle de la Terre. Hein, l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Mais si on parle de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Donc, c'est assez ancien par rapport aux chiffres qu'on avançait ici, entre 4000 et 6000 avant Jésus-Christ. On est plutôt dans des milliards d'années. Et puis, malgré tout, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui maintiennent une création récente, coûte que coûte. On les appelle les créationnistes. Souvent, ça vient des États-Unis. Alors, c'est l'image suivante. Ils estiment que la Terre a environ 10 à 20 000 ans. 10 à 20 000 ans. Ce qui fait un écart, on peut passer l'image, le petit, voilà. Ça fait une différence, vous voyez, de 4 499 980 000 ans. Donc, c'est, l'écart entre les deux positions est énorme. Hein. Il y a 99% d'écart. La question mise en avant par ceux qui maintiennent une création très récente, c'est que Dieu a pu créer un univers adulte ou assez âgé, mais instantanément ou de manière très accélérée, de manière récente. Alors la question, Dieu peut-il créer un univers adulte instantanément? Si on croit que Dieu est tout-puissant, à première vue, rien ne pourrait l'en empêcher de le faire. La question, c'est savoir s'il l'a fait ou pas. On trouve des indices dans la parole de Dieu de création instantanée de Dieu qui devrait mettre des années normalement à se produire. Je prends un exemple. Adam et Ève, par exemple, ont été créés. Adam a été créé directement adulte sans passer par la naissance et l'évolution du bébé pour devenir adulte. Donc il avait déjà des fonctions. Il avait même la capacité de parler, de nommer les animaux, de garder le jardin. Adam et Ève ont été créés directement adultes, ainsi que les arbres avaient déjà un certain âge, les animaux que Dieu a créés par leur espèce, etc. Dieu aussi a pu faire surgir des montagnes plus rapidement que les millions d'années supposées à être formées. Maintenant, regardons dans l'Écriture. On va passer à l'image suivante. On a quelques autres indices. Par exemple, le bâton de Moïse. Dieu lui a dit « Jette ton bâton sur le sol ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? Instantanément, ce bâton s'est transformé en serpent. Est-ce que c'est possible, ça ? Voilà. Humainement, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, on va dire tout est possible. C'est-à-dire que Dieu a créé un serpent instantanément à partir d'un bâton, admettons. Mais en tout cas, ce serpent, normalement, s'il avait dû venir à l'existence, il aurait fallu un certain temps, du moins peut-être plusieurs mois, voire des années, pour qu'il arrive à une stature de serpent mature. Mais en tout cas, ça s'est fait instantanément. Donc on voit que pour Dieu, la possibilité de créer quelque chose qui paraît ancien instantanément, ça lui revient. Je vous donne un autre exemple. En une seule nuit, tu peux cliquer, en une seule nuit, le bâton d'Aaron a fleuri et produit des amandes. Vous trouvez ça dans Nombre 17, verset 8. En une seule nuit, alors qu'il faut des semaines et des mois pour arriver à ce résultat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu ne dépend pas du temps. On l'a dit tout à l'heure, il est en dehors du temps, le temps c'est sa création. Donc lui peut accélérer des processus ou voire les ralentir. En fait, il agit avec le temps comme il veut. Je vous donne un autre exemple, c'est le ricin. Dans Jonas chapitre 4 verset 6, il est sorti de terre par une croissance spectaculaire pour faire de l'ombre à Jonas. Là encore, ce n'est pas naturel. On pourrait dire que c'est une croissance accélérée. Elle n'est pas instantanée, mais elle est au moins accélérée. Le processus existe, et c'est comme si Dieu, au lieu que ça se fasse en 3 mois, ça va se faire en 10 heures, par exemple. Alors on pourrait dire que c'est impossible. Oui, c'est impossible humainement, mais Dieu ne dépend pas du temps pour aboutir à une création. Un exemple célèbre, c'est l'image suivante. On va changer d'image. Il a multiplié les pains et les poissons pour une foule, on estime à 15 000 personnes qui étaient là. Eh bien, il n'a pas mis deux ou trois heures, il n'a pas mis deux ou trois jours pour aboutir à cela, ça s'est fait instantanément. Il y a eu des poissons qui se sont multipliés. D'où venaient-ils ? On ne sait pas, mais Dieu les a créés. En tout cas, à partir de rien, il y a eu, ou à partir des cinq pains et des deux poissons, si on peut dire, il y a eu une démultiplication de poissons et de manière instantanée. Un des miracles les plus célèbres, c'est lorsque Jésus est invité à un mariage à Cana. Il n'y a plus de vin, mais il y a des grandes jarres pouvant contenir 600 litres. Et Jésus a dit, remplissez d'eau ces jarres. C'était que de l'eau, 600 litres d'eau. Jésus a prié, ils ont donné à l'ordonnateur du repas de cette boisson et ça s'était transformé en vin. Or, combien de temps il faut pour faire un bon vin ? On voit les connaisseurs. Il faut des années, il faut que ça mûrisse dans les fûts. Et puis, si un œnologue avait goûté ce vin, il aurait pu dire, mais ce vin, peut-être, il a 12 ans ou 15 ans d'âge. En réalité, il avait quelques secondes. Alors, qu'est-ce que tous ces exemples successifs nous montrent ? C'est qu'il n'est pas impossible à Dieu de créer instantanément quelque chose qui, pour un observateur extérieur, il va lui donner un certain âge. Si on avait mis un spécialiste à goûter ce vin, l'ordonnateur a dit que c'était un très bon vin. Donc, si on l'avait fait analyser par un spécialiste, il aurait pu estimer son âge. Mais ça aurait été faux, puisque l'âge, il n'était que de quelques secondes ou quelques minutes. Mais il aurait donné, estimé un âge à plusieurs années, au moins. Donc, vous voyez qu'avec Dieu, on est un petit peu piégé par les âges, par donner du temps. Qu'est-ce que prouvent ces exemples ? C'est que Dieu ne dépend pas du temps et qu'il peut accélérer des processus naturels et ce qui mettrait des années, eh bien, il peut le faire instantanément. Écoutez, je vous propose qu'on fasse une pause parce que je vois qu'ils font la pause. On va se synchroniser et si vous avez des questions là-dessus, on se revoit après la pause. Donc 10 minutes et on reprend à 11 heures.